Chapitre 9e. Onésime poursuivit en ces termes la lettre écrite par le corsaire l'endurci au sujet de son évasion. Pour réaliser mon projet de fuite, il fallait d'abord rompre mes liens. N'ayant pu parvenir à les approcher à portée de ma bouche, afin de les ronger avec mes dents, je songeais à un autre moyen. À force de fureter en rampant sur le ventre et en tâtant autour de moi avec ma figure, n'ayant pas l'usage de mes mains, liées derrière mon dos, je rencontrai un gros crochet de fer rivé à l'intérieur de la cale et sans doute destiné à l'arrimage du lest. M'approchant de ce crochet, je m'y adossai et commençai d'user mes liens en les frottant sur le fer et en les déchiquetant sur la pointe. 2 heures après, j'avais assez limé mes cordes pour pouvoir les briser par une violente secousse, car la colère me donnait une force incalculable. Une fois les mains libres, mon dessein bien arrêté, le reste n'était qu'un jeu. J'avais sur moi mon briquet, ma pipe, de l'amadou, un paquet de tabac et un long couteau de baleinier. Je coupai les liens de mes jambes et, tout à fait maître de mes mouvements, je parcourus la cale à genoux, ne pouvant m'y tenir debout. Je n'y trouvai rien que des morceaux de vieille voile et quelques bouts de cordage. La seule issue par laquelle je pouvais sortir était fermée par un large panneau carré. Ses planches épaisses s'étaient à un endroit quelque peu disjointes. À travers cette fente, j'aperçus la clarté de la lumière. Marcoutant alors, mes mains placées sur mes genoux, j'essayai de soulever le panneau avec mes épaules. Vains efforts, il était, ainsi que cela devait être, maintenu au dehors par de fortes barres de fer. Je pris alors à tâtons quelques bouts de corde goudronnée. Je les coupai par tronçons et les détournant brin à brin, j'en fis facilement de l'étoupe. Je découpai ensuite en lanières quelques morceaux de la vieille voile sur laquelle on m'avait jeté. Je disposai ces bandes sur l'étoupe goudronnée que j'avais préparée, plaçant le tout au-dessous du panneau, vers l'endroit où s'y trouvait une fente de quelques lignes. Je vidai mon petit sac de tabac, bien sec, sur l'étoupe, afin de la rendre plus combustible. Je battis le briquet, j'allumai l'amadou, que je jetai sur l'étoupe, et je commençai à souffler vigoureusement. L'étoupe prit feu. Le communiqua au morceau de vieille voile, en un instant la cale fut remplie d'une épaisse fumée dont une partie s'échappait par la fissure du panneau. Et je criai au feu de toutes mes forces. Mes cris et la forte odeur de brûlé qui s'échappait de la cale effrayèrent les marins. Ils craignirent un incendie. J'entendis un grand mouvement sur le pont, le panneau fut aussitôt enlevé, et il s'échappa de l'écoutille une bouffée de noire fumée si aveuglante pour ceux qui, groupés sur le pont, se penchaient vers l'ouverture de la cale, que d'un bond je pus en sortir et m'élancer à l'avant du chasse-marée, mon couteau à la main. Je me trouvai en face d'un homme de haute taille en caban brun. Je le poignardai. Il tomba à la renverse dans la mer. Sautant alors sur la hache toujours placée près de la bitte, afin de pouvoir couper le câble au besoin, j'abattis à mes pieds un autre homme, et d'un revers, Onésime s'arrêta court, ayant été entraîné à lire plus qu'il ne l'aurait voulu. Il craignait que le récit de ses tueries n'impressionnât trop vivement la jeune fille. En effet, celle-ci faisait un grand effort pour cacher l'horreur que lui causait ce massacre, injustifiable à ses yeux, même par les nécessités d'une évasion. Pourtant, elle se contint, autant par raison que pour satisfaire à l'étrange curiosité que ce récit lui inspirait malgré elle. Et il faut le dire aussi, elle tâcha encore de se vaincre pour ne pas priver sa gouvernante d'une lecture qui semblait l'intéresser. « Tu as raison de t'arrêter, mon garçon, » dit la tante à son neveu. « Tu aurais même dû t'interrompre plus tôt. »« Ma chère amie, » répondit la jeune fille, « si c'est pour moi que tu prends cette précaution, c'est inutile. Je veux tâcher de m'aguerrir. »« Vrai, mon enfant, vous aurez ce courage ? Eh bien tant mieux, car je vous avoue que je grille de savoir la fin. » Et puisque cela ne vous émotionne pas trop, ayez l'obligeance de continuer, dit la jeune fille à Onésime. Celui-ci reprit. J'abattis à mes pieds un autre marin, et d'un revers je coupai à demi le bras d'un homme qui se jetait sur moi un sabre à la main. Tout ceci s'était passé en un clin d'œil. Profitant de la stupeur de l'équipage, et me sentant déjà plus calme, plus à mon aise, après cette première explosion de ma colère, de ma rage, si longtemps contenue, je voulus un peu voir où j'en étais et, comme on dit, me recorder un instant. Il faisait un clair de lune magnifique. La brise était fraîche, la mer belle. Un vieux matelot à cheveux blancs tenait le gouvernail. Amousse et trois marins épouvantés s'étaient réfugiés à l'avant, séparés de moi par l'ouverture du panneau. L'homme que j'avais abattu d'un coup de hache ne bougeait plus. Celui que j'avais blessé était à genoux, soutenant son bras droit dans sa main gauche. Tout compte fait, j'avais encore contre moi trois hommes valides, un enfant et un vieillard, mais ces gens semblaient démoralisés par ma brusque attaque. J'aperçois à ce moment une paire de pistolets accrochés près du gouvernail. Avant qu'aucun des trois marins puisse faire un mouvement, je saute sur ses armes. J'avais ma hache entre mes dents et deux coups à tirer. Mes deux balles me répondaient de deux hommes et égalisaient la partie. Moi au gouvernail, le vieux marin et le mousse à la manœuvre, nous pouvions à la rigueur faire évoluer le chasse-marée, car le temps était superbe et nous ne devions nous trouver qu'à 10 ou 12 lieues des côtes de France. Ma position ainsi promptement estimée, j'arme mes pistolets, je m'élance vers les trois hommes qui revenaient à peine de leur surprise, car tout cela s'était passé en 2 minutes au plus. « Vous allez descendre tous trois dans la cale, leur dis-je, ou sinon j'en brûle deux et j'abats le troisième à coups de hache. » Il n'y avait entre ces hommes et moi que la largeur du panneau, 4 pieds environ. Je pouvais les tirer à brûle-bourre. Ils sautèrent dans la cale, où finissait de s'éteindre le peu de matière combustible que j'y avais allumée. Le blessé y descendit comme il put, je refermai le panneau, j'assujettis solidement les barres de fer qui le maintenaient, et je revins à l'arrière. « Donne-moi la barre, » dis-je au vieux matelot, en prenant sa place au gouvernail. « Toi et le mousse, vous manœuvrerez la voilure, et manœuvrez droit, ou je vous brûle la cervelle. » Je prenais la barre des mains de cet homme lorsqu'il s'écria en reculant d'un pas. « C'est le capitaine l'endurci. Tu me connais ?»«
Si je vous connais, capitaine, j'ai fait 2 courses sur le tison d'enfer.
Et tu t'appelles Simon de Dunkerque. »
« C'est vrai, je me rappelle maintenant ta figure. »
« Ah, misérable! Tu voulais me livrer aux Anglais, moi, ton ancien capitaine ?»«
Que je sois fusillé à l'instant, si je me doutais qu'il s'agit de vous, capitaine !»«
C'est donc à toi, ce chasse-marée ?»«
Non, capitaine, c'est à Bezlec. »«
Et où est-il ?»«
Au fond de la mer, capitaine. C'était l'homme au cabambrin que vous avez abattu le premier et qui est tombé par-dessus le bord. »«
Et comment, toi et lui, avez-vous consenti à vous rendre complice de mon enlèvement ?»
« Dame, capitaine, nous faisons un peu de contrebande, un peu de tout. »
« Je le vois bien. »
« Avant-hier, 2 Anglais sont venus et, tenez, en voilà un des deux. »
Et il me montra le cadavre étendu à l'avant.
« Jette ça à la mer, » lui dis-je.
Le vieux marin, aidé du mousse, fit rouler le corps par-dessus le plat-bord du chasse-marée.
« Et l'autre Anglais ?» dis-je au vieux matelot.
« Il est dans la cale, capitaine. C'est à lui que vous avez à moitié coupé le bras. »
« Et comment ces hommes vous ont-ils rendu leurs complices ?»«
Ils ont dit, Bezlec, il y a 50 guinées pour toi si tu consens à passer en Angleterre un homme que nous t'amènerons. Nous ne lui voulons faire aucun mal, mais s'il résiste, il faudra, toi et tes hommes, nous donner un coup de main pour le bâillonner, le garrotter et le mettre à fond de cale de ton chasse-marée. Il y aura 25 guinées d'avance et 25 guinées en arrivant à Folkestone. » Comme il n'y avait pas, après tout, mort d'homme, le marché a tenté, Bezlec. Tout a été convenu et l'on vous a amené, capitaine. Mais je vous jure que je ne savais pas que c'était vous au sens là, je ne me serais pas mêlé de cette affaire.
4 heures après ma sortie de la cale, nous étions en vue du petit port de Mora, où j'ai débarqué sain et sauf.
Nos lecteurs nous sauront gré, ajoutait le journal de l'Empire, de leur avoir donné cet extrait du récit du brave corsaire. Grâce à Dieu, le capitaine l'endurci, par son sang-froid et son intrépidité, a pu échapper à un infâme guet-apens. Espérons que son nom sera longtemps encore la terreur des ennemis de la France. Onésime, la lecture terminée, posa le journal sur la table.
« Quel homme !» dit la gouvernante avec admiration.
« Quel homme que ce corsaire ! Seul, garrotté, bâillonné, trouvé moyen de sortir si vaillamment d'un pareil danger ?
Mais que de sang versé !
Dit la jeune fille en frémissant.
« Et pas un mot de regret, de pitié pour ses victimes. Avec quelle cruelle indifférence cet homme parle de ceux qu'il a massacrés sans résistance. Car, surpris, ces malheureux ne se défendaient pas. »
« C'est vrai, » dit Onésime à demi-voix. Sa tante ne l'entendit pas et reprit en s'adressant à la jeune fille. « Écoutez donc, mon enfant. Cela est bien facile à dire, mais dans une position pareille, on a bien le droit de...
« Eh mon Dieu, ma chère amie, Tu vas sans doute me prouver que cet homme était victime d'une lâche trahison, qu'il voulait à tout prix recouvrer sa liberté, que cette tuerie était son droit, que ce féroce mépris de la vie d'autrui s'appelle courage, héroïsme. Tout cela est possible. Je suis mauvais juge, peut-être. Je te dis seulement mon impression. Car pendant ce récit, qui, je l'avoue, masquerait malgré moi une sorte de curiosité sinistre, je n'ai ressenti qu'aversion et horreur. Tiens, il y a une pensée, un mot, qui m'a surtout épouvanté par sa férocité. Quelle pensée ? Cet homme, après avoir tué deux de ses malheureux et blessé le troisième, n'a-t-il pas dit, presque en raillant ? Alors je me suis senti plus à mon aise, plus calme, après cette première explosion de ma colère, de ma rage. Plus calme, mon Dieu ! Ainsi, il lui fallait du sang, des meurtres, pour apaiser cette colère furieuse qui semble sa passion dominante, exécrable passion, dont il semble invoquer le secours dans les moments désespérés, comme d'autres invoquent l'assistance de Dieu. Mais encore une fois, mon enfant, après tout, un corsaire est un corsaire, ce n'est pas un saint. Que voulez-vous, à chacun son métier ? Eh mon Dieu, ma tante, s'écria Onésime, qui avait jusqu'alors gardé le silence, le bourreau a pour métier de couper des têtes, et c'est un épouvantable métier que le sien. Ah ! Dit vivement la jeune fille, j'étais bien sûr que M. Onésime penserait comme moi. Lui, je le crois bien, répondit la gouvernante en riant. C'est une vraie femmelette. Est-ce qu'il peut parler de bataille ? J'avoue en toute humilité, ma tante, que je n'ai rien de ce qui fait les héros, reprit Onésime en souriant. Aussi, je vous avoue que, si j'étais prisonnier, et qu'il me fallut acheter ma liberté par la mort de mon plus cruel ennemi, je renoncerais à la liberté. Bien, bien, monsieur Onésime, voilà le vrai, le bon courage. Aussi, n'est-ce pas celui des gens de guerre et de massacre ? Répondit la jeune fille avec animation, car la répulsion qu'elle éprouvait pour les batailleurs venait peut-être aussi de ce qu'Onésime, et par son caractère et par son infirmité, ne pouvait être un homme d'action. Onésime courageux, reprit la gouvernante en répondant aux dernières paroles de la protectrice du pauvre myope. Allons, cela n'est pas sérieux. Et s'adressant à son neveu, « Tu ne veux pas que mademoiselle se moque de toi, mon pauvre garçon. Mais en attendant, mets mon tricot sur ce guéridon, mon vaillant héros, et passe-moi ma boîte à ouvrage sans faire de maladresse, s'il est possible. » En parlant ainsi, elle tendait à la fois les deux mains à Onésime. L'une tenait le tricot, l'autre s'ouvrait pour recevoir la boîte. Le jeune homme fut donc obligé de tendre à son tour ses deux mains, l'une pour donner le coffret à ouvrage, l'autre pour prendre le tricot. La clarté de la lampe tombant en plein sur la table, l'impitoyable tante s'aperçut seulement alors de l'horrible brûlure dont Onésime avait été atteint et s'écria « Mon Dieu, mon enfant, qu'as-tu donc à la main ?»« Mais rien, ma tante, » répondit-il en retirant vivement sa main pendant que la jeune fille, dont l'attention venait d'être attirée par l'exclamation de sa gouvernante, le regardait avec inquiétude. Mais l'implacable tante s'est élevée précipitamment et, s'emparant de la main de son neveu, presque malgré lui, l'avait examinée. « Ah, le malheureux enfant » s'écria-t-elle avec angoisse. « Il est affreusement brûlé. Mais tu dois souffrir le martyre. Cela est tout récent. À quel moment cela t'est-il donc arrivé ?» Et se tournant vivement vers la jeune fille qui s'approchait toute inquiète, elle lui dit « Ne regardez pas cela, pour l'amour de Dieu. Mon enfant, cela vous ferait trop de mal à voir. » Et elle ajouta « Ah, maintenant je devine. C'est tout à l'heure, n'est-ce pas, Onésime ? Lorsque tu as mis l'eau bouillante dans l'urne, ta mauvaise vue t'aura trompé, mon pauvre cher garçon, et de crainte de te faire moquer de toi, tu as enduré, sans maudire, une douleur atroce. Ah, mon Dieu ! Et il a eu le courage de nous faire la lecture pendant tout ce temps-là encore !» Le silence d'Onésime qui baissa la tête fut significatif. « Ah ! S'écria la jeune fille en s'adressant à sa gouvernante avec une indicible émotion et les yeux pleins de larmes. « Je te le disais bien, moi, qu'il était courageux. Oui, voilà le vrai courage, non pas ce courage féroce qui, né de la colère, ne cherche que sang et massacre, mais ce courage des nobles cœurs qui, de crainte d'effrayer ceux qu'ils aiment, savent endurer, sans plainte, une douleur horrible. » L'émotion de la jeune fille, qui se trahissait dans l'accent de sa voix, récompensa divinement le digne garçon de son martyre, et lui-même le souverain bonheur de distinguer parfaitement, cette fois, la touchante expression des traits de la jeune fille,
car elle voulut obstinément aider sa gouvernante à panser la main d'Onésime, et pour concourir à ce pansement, il lui fallut s'approcher bien près du pauvre myope. Aussi, pendant quelques moments du moins, put-il s'enivrer de la contemplation de ces traits charmants, qu'il n'apercevait ordinairement que vagues et, pour ainsi dire, à demi voilées. Le pansement s'achevait, et Onésime regrettait de n'avoir qu'une seule brûlure, lorsque la porte du salon s'ouvrit et une servante entra précipitamment en disant « Dame Robert, Dame Robert !»« Eh bien, que voulez-vous »«
Madame, c'est Monsieur le Goffin qui vient d'arriver. »«
Et mon père ?» s'écria la jeune fille, le visage rayonnant d'une joie subite en courant à la porte.
« Mon père est là ?»«
Non, mademoiselle. Monsieur le Goffin m'a dit que monsieur s'était arrêté un instant à la poste aux lettres, mais qu'il allait venir tout de suite. »
« Ma chère amie, je descends, » dit la jeune fille à sa gouvernante. « Je vais dans l'antichambre attendre mon père. Je l'embrasserai plus tôt. Quant à vous, monsieur Onésime, je vous en prie, soignez bien votre main. »
Et la jeune fille se hâta d'aller au-devant de son père.
« Mon garçon, » dit Dame Robert au jeune homme, « rentre dans la chambre et arrose toujours ta main avec de l'eau fraîche. J'irai te voir avant de me coucher et te faire part de ce que m'aura dit monsieur Cloarec à ton sujet. » car il faut qu'il sache pourquoi et depuis quand je t'ai donné l'hospitalité chez lui. Du reste, je connais assez sa bonté pour être certaine qu'il approuvera ce que j'ai fait pour toi. »
Onésime se retira chez lui sous l'impression d'une triste et vague inquiétude. Il venait à peine de quitter le salon lorsque M. Le Goffin vint y rejoindre Dame Robert.